Les gardiens de la BD, épisode 180. Au sommaire cette semaine, Servitude, The Mask, Le Château des Animaux et le dernier Lucky Luke, entre autres joyeusetés. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour une nouvelle édition des Gardiens de la BD, toujours pas en direct sur Radio PFM, en différé d'une semaine on va dire, à peu près. Avec moi ce soir il y a toujours Franck.
Bonsoir tout le monde.
Et il y a toujours Thibaut.
Bonsoir mes amis masqués.
Thibaut qui a failli ne pas être là parmi nous, puisque comme vous l'avez entendu au moment du sommaire, il devait nous parler du dernier Lucky Luke, mais étant pris par l'intrigue et la quantité de recherche qu'il devait effectuer pour aborder sereinement cette chronique sans dire trop de conneries, il a dû abandonner. Donc on ne parlera pas de Lucky Luke cette semaine.
Non.
Voilà. tu t'es un peu perdu dans tes notes ce coup-ci, hein, je pense.
Je note que je n'ai absolument pas en fait. Hein.
Bah oui. Mais trop de travail préparatoire est peut-être nuisible.
Oui, mais là, il n'y en a pas du tout.
Tu l'as lu au moins.
Je l'ai lu, c'est tout ce que j'ai fait.
Moi, bon, t'as fait le plus dur.
Ouais, pas pour
moi. Ça tacle.
Enfin bref, voilà. Donc on va essayer de tenir une heure dans la bonne humeur. Franck,
comme d'habitude.
Oui, comme d'habitude. Franck, tu décides enfin d'assumer les blagues à ton compte, puisque tu vas nous parler de Chevalier de Dragon, à travers Servitude, de Bourgier et David. C'est sorti chez Soleil, et c'est le dernier tome qui est sorti, c'est ça?
Exactement, c'est le tome 6. Cette série a débuté il y a 17 ans. Donc l'Enfeust existait depuis quoi, 4-5 ans, c'est sorti chez Soleil, c'est de l'heroic fantasy si on veut faire simple quand on le présente, mais pour autant, je ne sais pas si vous l'avez lu messieurs, mais on est loin de l'image de l'heroic fantasy Soleil qui a débarqué dans l'Enfeust Mag et chez Soleil il y a 25 ans. Donc non, vous l'avez lu ou pas?
Non, moi j'ai peut-être lu le premier à l'époque, j'en ai aucun souvenir.
Mais d'accord.
Oui, le trait est beaucoup plus réaliste que ce qui était fait dans l'Enfeust.
Moi, j'ai pas lu, mais j'ai Wikipédia comme toi, donc ça va aller.
Alors, moi, je vous le dis tout de suite, j'ai aucune fiche, mais pour vous parler de cette série qui, pour moi, est pas loin d'être un chef-d'œuvre.
Bah vas-y, c'est ton tunnel, t'as 10 minutes.
Non, parce que j'espère que vous allez m'interrompre et me poser des questions. Quand c'est sorti il y a 17 ans, cet album, donc le tome 1 évidemment, moi j'ai été marqué par le dessin comme tu l'évoquais. On va commencer par ça parce qu'on va plonger dans un univers qui est plutôt médiéval au démarrage, qui est médiéval et tout l'album est, on dirait vraiment de la couleur directe et en couleur sépia. C'est très uniforme en termes de couleur. C'est très marron, très ocre. Et il y a un réalisme dans la totalité des choses. Pas seulement l'architecture, les fringues, mais c'est assez impressionnant. Et donc pour l'histoire, ça il suffit de le feuilleter pour s'en rendre compte, pour chercher un peu sur le net, vous verrez bien si ça colle à ce que je vous raconte. Pour l'histoire, on est sur quelque chose qui est plutôt du ressort, certains ont cité le Seigneur des Anneaux, mais moi je comparerais ça plutôt à Game of Thrones, c'est-à-dire qu'on est sur de l'heroic fantasy, mais plus médiéval, avec des petites touches de fantastique, plutôt que du vrai... Que des orques, des gobelins, il n'y a pas tout ça. Ouais, exactement. Parce que ça commence donc dans un univers qu'on appelle le royaume des fils de la terre. On découvre. Ah bon, je vois pas la référence là. On suit un personnage et on va vite apprendre qu'en fait, si toutes les personnes vont vers la capitale, c'est parce qu'il y a un mariage en devenir et c'est le mariage de ce personnage-là qui s'appelle Kyriel. Et donc on fait progressivement sa connaissance. On voit que le roi est quelqu'un de bon qui a unifié les différents territoires qui composent ce royaume des fils de la terre. Et il est composé en fait de trois parties. De trois provinces, celle du roi et les deux autres, ce sont celles de ses frères. Et autant il y a un de ses frères qui le suit aveuglément, autant le deuxième n'a envoyé que son oncle, ou je ne sais plus qui, enfin en tout cas il s'est fait représenter au mariage, il n'a pas daigné venir jusque-là. Et le mariage, enfin les festivités tournent assez court, parce que dès le lendemain, le Kyriel va être envoyé avec sa jeune épouse, donc la fille du roi, va être envoyé à la bordure de la province avec le frère qui ne s'est pas pointé, parce qu'il y a 400 soldats qui ont disparu. Et donc ça commence très réaliste comme ça, et c'est seulement à la fin qu'on va comprendre qu'il y a une touche de fantastique. À chaque fois là, dans cet univers, donc on a des décors, des architectures qui sont très médiévales, mais avec des touches grandioses, des anciens aqueducs cassés, mais qui sont super hauts, super impressionnants. Et ils parlent toujours comme quoi ils ont été aidés à la conception de cet univers par les géants. Et à un moment, on va comprendre aussi qu'il commence à parler de dragons, un peu comme dans Game of Thrones. Mais on n'en voit pas. Et on va en voir un à la fin du tome 1. On va en apercevoir un, mais qui n'a pas une réelle importance. Donc on se dit, ok, on est dans une série plutôt classique. Et ce qui est surprenant avec cette série, c'est que dès le tome 2, on part dans un royaume qui est en dehors de ceux du Fils de la Terre. On est chez des opposants et on va découvrir un autre pendant et on va découvrir finalement le royaume des Drekkar. Les Drekkar, ce sont
Les
les
Vikings.
descendants. Alors non, ils sont peut-être la violence et dans l'état d'esprit, ça pourrait être des Vikings, mais ils sont plutôt Moyen-Orient, plutôt pays chaud.
Ah ouais,
Et
du
ce
coup,
sont les
pas du tout
descendants.
Viking.
Mais non, 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 c'est ça qui est étonnant.
Non, c'est par
Mais c'est
rapport au nom que
censé
je
être.
disais ça, c'est pour ça.
Ouais, je me doute. Mais en fait, ils ont un rapport avec les dragons. Parce que autant les fils de la terre ont parlé des géants, eux, on va parler des dragons. Et finalement, progressivement, avec des notes, avec des poèmes, mais qui sont soit avant, soit après les histoires, on découvre que c'est un univers dans lequel il y a très longtemps des puissances qui se sont installées. Ces puissances sont les géants, les dragons, les fées, les anges, et il va m'en manquer, il y en a 5 ou 6, il m'en manque encore, et qui ont finalement influencé les hommes et qui les ont fait se développer différemment. Donc le côté médiéval, Game of Thrones, c'est les géants. Le côté Moyen-Orient qu'on va découvrir dans le tome 2 avec les Drekkar, c'est l'univers des dragons. Et on suit un autre personnage que le héros, et avec des intrigues politiques très marquées, avec de l'action. Enfin, franchement, ça vaut la peine. Ce qui est super avec ces deux premiers albums, en tout cas, c'est qu'à la fin, on a du texte qui explique l'univers.
Alors moi
Il n'y a pas besoin de le lire avant.
j'allais te demander, tu parles de la carte là avec plusieurs tribus qui peuplent cet univers. Est-ce que la carte, on la connaît dès le début, c'est-à-dire que on sait qui habite où et donc quelle tribu, quel type de créature compose ce monde imaginaire, ou est-ce qu'elle se dévoile au fur et à mesure du récit?
Alors les deux, mon général. Parce qu'en fait, le tome 1, je vais te dire, comme la première page, c'est un chant, c'est l'extrait d'un chant traditionnel qui explique l'histoire des fils de la terre, mais qui évoque un peu les autres quand même, qui évoque les dragons par exemple. Et dès la deuxième page, tu tournes la page et t'as le royaume des fils de la terre avec les routes, avec les capitales, les grandes villes, etc. Et tu devines à peine le nord dans le froid, le sud, le grand désert, où on va retrouver les Drekkar pour le tome 2. Et dans le tome 2, tu vas avoir la carte de la partie sud, donc qui vient compléter celle du tome 1. Donc là, pour répondre à ta question, voilà, je ne peux pas faire beaucoup mieux. Dans le tome 3, ça va se compléter encore un peu. Je vous disais juste avant qu'à la fin du tome 1 et du tome 2, vous avez des textes qui sont magnifiques et qui expliquent les coulisses de chacune de ces peuplades. Les fils de la terre d'un côté et les Drekkar de l'autre.
Ça fait des appendices comme dans.
Exactement, le Seigneur des Anneaux.
Non, moi j'aurais plus pensé à Dune.
Ah aussi,
Parce
mais
que.
c'est vraiment ça. Donc et c'est là que tu prends conscience de la richesse du monde qui a été créé par Bourgi et David. Par exemple, les Drekkar sont couverts de tatouages. Mais les tatouages ont un sens. Si tu les as sur les épaules et les bras, c'est que tu es un guerrier, donc ça c'est une caste particulière dans le monde des Drekkar. Si tu l'as sur le crâne, c'est que tu es un faiseur, c'est-à-dire que tu es un accoucheur. Si tu l'as sur, je sais plus, les mains, tu es un forgeron. Et t'as un
Et
sens.
si
Et ce
tu
qui
l'as
fait
sur
que
la bite?
ça n'existe pas. Ou alors,
Bah, si, si.
il y a sur les reins.
Oui, bah.
sur les cuisses pour les courtisans.
Oui, bah, c'était un peu le même quoi.
Ah, les courtisans, hein, pas les courtisanes.
Non, les courtisans du roi, enfin du roi, de l'empereur, qui est le dernier descendeur de, d'un mix entre les dragons et les humains, parce que comme je vous le disais, les puissances se sont mélangées aux humains. Mais en fait, ce qui est impressionnant, c'est que quand tu vois le dessin, tu te rends pas compte que les fringues, les tatouages, les bijoux ont un sens. C'est pas fait juste pour décorer. Tu vois que c'est pensé de A à Z. C'est ça qui est hyper impressionnant. Donc maintenant que je vous ai parlé des deux premiers tomes, le tome 3, on part là, il va commencer à avoir des affrontements, et le tome 3, il y a une énorme scène de bataille digne du Seigneur des Anneaux, et là les appendices de fin d'album.
C'est aussi pompier que les films Seigneur des Anneaux, c'est un peu plus sobre.
Non, c'est plus sobre, c'est beaucoup plus sobre, parce que tu vas suivre quelques personnages seulement. Et ce qui est marrant, c'est que dans les appendices de la fin, l'histoire est toujours racontée par les vainqueurs. Donc, le descendant d'un des personnages de l'équipe vainqueur qui raconte toute la scène, mais un peu comme dans un livre d'histoire, avec les mouvements des différentes factions. Chose que tu ne perçois pas totalement quand tu lis l'album. Tu t'intéresses pas à la stratégie des deux rois, même s'ils l'évoquent. Mais c'est pour te dire à quel point c'est poussé. Et à partir du livre 4, moi là j'en ai bavé avec le tome 4, parce qu'on va aller vers une troisième peuplade, qui est celle qui descend des anges. Et je vais pas en dire beaucoup plus, mais là je conseillerais de lire les appendices avant de lire le tome, contrairement à l'habitude. Parce que on est vite paumé, parce qu'on change vraiment de direction. Autant dans les trois premiers tomes, on pouvait avoir des petites touches dans l'histoire qui permettaient de mieux comprendre la suite d'un tome à un autre. Autant le tome 4, il y a un grand écart qu'il faut combler au démarrage. Mais impressionnant. Et donc, tome 5 et 6, le 6 vient de sortir. Tome 5 et 6, c'était censé être un seul tome. C'était prévu en 5 tomes initialement. Et c'est la révélation finale, parce qu'on va apprendre que je spoil pas tant que ça, hein. C'est que les puissances finalement combattaient une divinité qui a créé ce monde, qui a créé les hommes, et donc là on va arriver dans un côté plus fantastique qu'on l'a au démarrage,
plus mythologique même, non, enfin, vu comment on parle.
Ouais, plus mythologique que fantastique, à vrai dire, exactement. Mais c'est toujours à l'échelle humaine, toujours avec des affrontements entre les descendants des différentes puissances. C'est hyper riche, hyper détaillé. Maintenant que je vous ai dit ça, j'espère vous avoir donné envie. Je vais quand même faire une critique. Pour moi, le point négatif qui fait que ça, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, c'est que il y a tellement de personnages, même s'il y en a qui sont dégommés au fur et à mesure, un peu comme dans Game of Thrones, tu t'orientes, tu changes, il y a le roi qui meurt, tu suis le prince après, t'as le prince qui meurt, bah tu suis le frère, enfin j'exagère, mais c'est un peu ça l'idée. Le truc, c'est qu'en fait, on a du mal à s'attacher aux personnages au point que ça en devienne émouvant. C'est-à-dire que j'aurais aimé être plus impliqué dans l'histoire, plus impliqué ça manque d'enjeux à l'échelle humaine.
Ouais, mais c'est pas à cause des enjeux qui sont pas à l'échelle humaine, justement, de l'histoire qui fait que
c'est un peu ça. Bah, y a quand même des enjeux à l'échelle humaine, mais c'est des enjeux à l'échelle humaine de guerre entre peuplades. Ouais. Le personnage principal dont je vous ai parlé, Kyriel, je vous spoil un peu, il va aller quand même jusqu'au tome 5 et 6. Lui, il va pas mourir dans les premiers tomes. On s'attache pas assez à lui et à ses enjeux personnels, qui sont de suivre le mouvement, quelque part, pour être ému par ce qui va lui arriver à la fin.
Ouais, alors que c'est le seul point de repère et le seul liant dans lequel on pourrait s'identifier de A jusqu'à Z.
Presque oui. Alors, tu as des personnages qui vont durer comme ça sur la longueur quand même. Je vous dis, il y en a quelques-uns qui meurent, il y en a qu'on voit quand même.
Mais c'est pas parce qu'ils ont trop construit leur univers qu'ils n'arrivent pas à se rattacher. Qui veulent absolument utiliser complètement l'univers qu'ils ont écrit, et du coup, il y a un côté de.
Je pense pas. Je pense que c'était jouable, mais ça aurait peut-être demandé un ou deux tomes de plus. Mais on est tellement dans les intrigues politiques, tellement dans le réalisme, que ils sont dépassés par les événements, ces personnages, et ils n'ont pas le temps de se préoccuper de faire dans le personnel finalement. Et tu vois. Quelque part, on va faire le parallèle avec ce que tu évoquais au début, les Lanfeust et ce genre de séries-là, dans les séries dans lesquelles tu as de l'humour ou tu as du décalage, qui peuvent nuire à ce côté réaliste, enfin qui nuisent carrément à ce côté réaliste et au sérieux qu'il peut y avoir à l'univers, mais quelque part tu t'attaches à eux. Et finalement, c'est peut-être ce qui manque un chouïa dans Servitude, c'est de s'attacher à des personnages avec des scènes peut-être plus légères par moment ou plus humaines, mais en fait ils sont précipités dans la dureté des affrontements.
Oui, parce qu'on en a déjà lu des récits plutôt noirs et très ancrés dans l'enjeu politique, la stratégie, et où on arrive quand même à s'attacher à des personnages ou à s'identifier. Ouais. Moi, ça me fait penser, ton univers là que tu décris, ça me fait penser à une série que j'ai regardée sur une plateforme là qui s'appelle Carnival Row.
Et
c'est à l'époque victorienne, mais c'est pareil, c'est un mélange de différentes créatures. Et justement, la force aussi de ça, c'est comme tu le dis justement, c'est qu'on va se centrer sur certaines créatures, que ce soit des humains ou non, des fées ou autres, et on va en découvrir vraiment pas mal sur eux, ce qui fait que bah voilà.
Mais mais curieusement, là, dans l'univers de Servitude, les dragons. T'en vois un au début du tome 1, et après, je vais pas vous spoiler, mais t'en vois quasiment jamais. Les anges, tu les vois pas. Les sirènes, tu les vois pas. Les fées, tu les vois pas. Les géants, tu les vois pas. Ah oui. C'est la déclinaison sur les humains. C'est comment ils ont influencé l'humain, okay. Comment ils sont peut-être mélangés, comment il y a des êtres qui sont un peu des mélanges.
Comme les récits de la mythologie grecque et romaine.
Ouais, c'est ça. Exactement. Sauf que tu vois jamais apparaître réellement ces puissances qui... intervenir. Ils sont intervenus par le passé, mais plus maintenant. Et franchement, c'est une série que je ne saurais que trop recommander. Il n'y a que 6 tomes, mais c'est d'une richesse. C'est pas le genre de BD qu'on va lire debout à la Fnac ou dans un autre magasin. Et, là, il faut prendre son temps, il faut s'installer, il faut se plonger dedans, quitte à relire. C'est un univers, c'est une œuvre, mais hyper complète, quoi.
Ok.
Donc, Servitude de Bourgier et David aux éditions Soleil.
J'ai une dernière petite question. Tu parles de chef-d'œuvre. Une récompense au compteur de cette série ou jamais?
Je crois même pas. Alors, sincèrement, quand tu vois la qualité du truc et quand c'est sorti, je vous le disais, il y a 17 ans, moi je me demande comment Soleil a eu le flair pour le signer, mais ça colle pas à ce qu'il faisait à l'époque.
Ouais, mais c'est Soleil pur ou c'est la collection que Bajram
Non, avait c'était fondé. Soleil pur.
C'est Soleil pur. Enfin, après, ils avaient Universal War One aussi, qui était pas du
Soleil.
Oui,
tout à fait. Ouais. Bah, on est plutôt dans cette réflexion. On est plutôt dans une conception d'univers comme Universal War, plutôt que dans les univers d'Arleston de l'époque.
Ok, donc merci Franck et Thibaut. Faudra que tu nous répondes pendant la pause musicale. Pourquoi as-tu un compte Amazon Prime?
Ah, mais écoute, non, j'ai dit une plateforme.
Hein. Ouais, mais c'est sur Amazon.
Ça peut être une plateforme pirate où je télécharge
allègrement. C'est pas mieux, alors. Putain, vaut mieux pirater qu'avoir un compte Amazon.
Bon, lisez Servitude et arrêtez avec vos plateformes. Plutôt que regarder des séries, lisez des séries.
Oui, voilà. Franck, pour en finir avec toi, ton gros coup de cœur, tu continues puisque tu as décidé, en plus de ça, enfin de nous parler de dragons, de grosses épées et tout ça, de faire ton coming out puisque tu as choisi Elton John, I'm Still Standing, en première pause musicale. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask. Win. Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces. Made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Deuxième partie des gardiens de la BD.
C'est bien Elton John quand même.
Ouais, et puis le fondu est beau.
Ouais, ça je sais pas, on verra après. Donc vous n'êtes toujours pas en direct sur Radio PM.
Et nous non plus.
Nous on a une semaine d'avance, putain, c'est, j'ai jamais vu. Thibaut, tu voulais nous parler d'une intégrale sortie chez Delirium, il me semble.
Ouais, c'est en fait c'est même une suite d'une réédition. C'est The Mask. Alors Laurent, ancien gardien, mais toujours gardien dans nos cœurs évidemment. Vous en avez parlé.
Comment tu t'es rattrapé?
On est sur une réédition en trilogie normalement. Donc le premier tome, Le Masque, avec deux épisodes dedans. Le Masque et le Retour du Masque. Ensuite, le deuxième album, c'est le Masque Contre-Attaque. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui.
Ouais, mais alors normalement... du coup, ils sont gourés parce que le Retour du Masque, c'était le troisième, normalement.
Pas totalement.
C'est référence à Star Wars, tout ça.
Ouais, mais en fait, référence à Star Wars, maintenant, on fait ce qu'on veut. Tu ressors un truc 10 ans, 20 ans plus tard et tu l'intercales entre les autres. Et hop, ça passe.
Vous m'avez paumé là.
Non, l'Empire contre-attaque, le retour des Jedi, ça te.
Je sais pas, ça me parle pas.
Ok, bon.
Non, mais il n'y a pas de dragon, c'est pour ça.
Voilà, servitude, servitude. Donc, c'est The Mask, c'est signé par John Arcudi et Doug Mank. Laurent disait que dans le premier tome là, qui est sorti, il n'y avait pas d'intro, pas de contextualisation. Notamment sur le fait que ce fut édité chez Dark Horse, créé par Mike Richardson, notamment pour le tome 0. Là, on est dans une entame un peu différente. Il y a une légère contextualisation au début. C'était fort utile, donc on peut considérer que Delirium et Dark Horse ont entendu Laurent. Il peut s'en féliciter. On reste sur la...
Quelle influence ont les gardiens de la BD quand même
sur le monde de la bande dessinée, sur le monde de l'édition, et ben voilà, l'influence.
Et je vous parle pas du résultat des élections américaines.
Non mais attends, on a dit qu'on disait rien. Hein.
On n'était pas sans s'en parler, ça.
On a quand même pris le chèque, maintenant c'est silence. Donc on est toujours dans le même environnement, une BD qui est trash, clairement pour adultes, comme toi, Nico, t'avais rebondi là-dessus à l'époque sur les Tortues Ninja, et l'origine, en tout cas, des Tortues Ninja, avant que ce soit siphonné par le dessin animé. C'est un récit qui est très noir et en même temps extrêmement rigolo par des répliques du masque, hein, notamment, en tout cas de ceux qui portent le masque. Et un des grands intérêts de cette suite, c'est que le masque continue d'aller de main en main. Et c'est ça la grosse différence par rapport au film qui en avait été fait, c'est que l'intérêt, c'est que le masque voyage, et donc avec les personnalités exacerbées des différents porteurs, c'est un vrai régal. Donc dans le retour du masque, on retrouve l'inspecteur Calloway qui se...
Thibaut, je me permets, le retour du masque, c'était pas dans le tome 1, là, c'est pas le masque contre-attaque.
Le masque contre-attaque, pardon, c'est effectivement. Mais dans le... en fait, je voulais faire un petit retour en arrière, en vous parlant du retour du masque, où on a l'inspecteur Calloway qui se sert du masque pour traquer des mafieux, les mafieux du clan de Don César Mozzo, qui veulent sa peau. Et il est aidé par Cathy, qui est l'ex-copine de Stanley, c'est le premier utilisateur du masque.
Du masque, ouais, ok.
Pour faire la peau de Calloway, du flic, les mafieux font sortir de tôle un certain Walter, c'est une énorme brute qui paraît immortelle, et qui a surtout une sale tronche. Et à la fin de ce premier tome, là, en tout cas, le retour du masque, Walter, lors d'une sorte de bataille finale, il coule à pic dans le port et le masque disparaît. Dans le tome 3, okay. Le masque contre-attaque, on apprend que Walter est à l'hosto, donc il a a priori été sauvé, sauf qu'il vient de se. Donc il a été installé chez les Grands Brûlés. On découvre ça en fait en découvrant aussi sa fuite de l'hôpital. Dans le même temps, on suit quatre jeunes adultes. Il y a un junkie, un rocker, un petit génie à lunettes et puis un fan de Grosse Tête. Grosse Tête, c'est comme ça qu'on a été surnommé le masque. C'est une bande de quatre potes, ils vivent a priori en coloc. Et celui qui est fan de Grosse Tête, donc du masque, il revient régulièrement en pèlerinage, justement sur les lieux où le masque a été vu pour la dernière fois. Et puis, lors d'un de ses pèlerinages, il retrouve le masque. Et tout recommence. C'est-à-dire que lui va mettre le masque, et d'autres personnes vont mettre le masque au cours de cet épisode. Et on s'aperçoit beaucoup plus par rapport aux deux tomes précédents que quel que soit l'état d'esprit du porteur, c'est-à-dire qu'il soit junkie, qu'il soit fan du masque, qu'il soit envie de justice, c'est-à-dire qu'il se dise tiens, je vais me servir du masque pour arrêter les méchants. Quel que soit l'état d'esprit du porteur, le masque il amplifie les plus mauvais côtés de chacun.
Que les mauvais?
Alors, quelque chose de mauvais. Alors, clairement, toute la partie où le junkie porte le masque, tu vis dans un monde complètement à la Hendrix.
Sous
acide LSD et tout ce que tu peux trouver. Là, on retrouve le gros bénéfice des couleurs, la colorisation du deuxième tome, donc le retour du masque. Il y avait eu des couleurs beaucoup plus pop, beaucoup plus peps, vives, avec des aplats, c'était un traitement informatique. Et là, dans ce cadre-là, dès que le masque est porté, tout part en mode cartoon, et c'est important d'avoir des couleurs qui aident le récit
et
le
décor. Et le film était déjà sorti à ce moment-là.
Donc en fait, chaque personne, dès qu'il porte le masque, le but c'est d'emmerder le monde à défaut de le tuer, hein, clairement.
D'accord.
Et Calloway, le flic, et Cathy, donc l'ex du premier porteur, ils reviennent en scène. Et pour réussir à une fois de plus retrouver le masque, calmer le jeu, c'est le graphique.
Il se positionne un peu en gardien du.
Bah du secret.
De la paix. Ouais, du secret et de la paix.
Parce que au début, il y a que Calloway et Cathy qui sont au courant que Grosse Tête. En fait, c'est pas une créature à part entière, c'est bien quelqu'un qui met un masque et qui devient.
Et donc on a affaire à plusieurs personnes.
Voilà, qu'en fait on a affaire à plusieurs personnes, eux ils savent comment ça fonctionne, ouais. Et ce sont les seuls. Donc Calloway va essayer de retenir le plus possible ce secret, mais ça finit par prendre trop d'ampleur, donc il va devoir reprendre du service et va avoir de plus en plus de mal à contenir ce secret.
Ok.
Thibaut, à ce moment-là, le film est quand le film était déjà sorti quand ces épisodes-là sont sortis aux États-Unis ou pas?
Je crois qu'on doit être dans les années 93, 92-93. Je sais plus te dire exactement quand le film est sorti.
Attends, on va chercher. Vas-y, continue, puis on va te dire.
Après, je pense.
Moi, j'aurais dit
94 le film.
Bon.
Donc peut-être 94 aux États-Unis.
Ça veut dire que, il n'était pas encore sorti, il était tout frais, ils ont eu probablement une lecture. Revérifie si tu étais dedans, Franck, revérifie la sortie du masque contre-attaque, au cas où je me suis planté d'un ou deux ans. Mais il me semble que c'était dans les années
80. De la BD, hein.
Ah ouais. Masque.
Alors, attends, je cherche.
Donc pour moi c'est pas sorti et c'est vraiment le film et c'est vraiment une vision, c'est même pas édulcoré, c'est clairement une autre vision, une autre interprétation du masque. On retrouve le côté cartoonesque mais à aucun moment on retrouve cette violence qui caractérise la BD. C'est très 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 trash.
A priori c'est fin 2014.
Non mais c'est
fin 2014.
Ouais, c'est la nouvelle édition.
Non, 2004, pardon. 2004, c'est mi-2004.
Non, c'est pas les bonnes dates.
Bon. Ce que je trouve.
Vas-y, Nico, t'avais un autre truc à demander.
Non, mais on parle du contre-attaque. Hein.
Ouais, ça doit être la réédition de luxe ou je sais pas quoi. Le masque contre-attaque, c'est 95.
On est dans le même train. Dans
donc tu vois, tu parlais de que ça partait en cartoon et compagnie, est-ce que c'était pas parce qu'ils avaient vu le film où ils ont bossé ensemble de concert, parce qu'il est fort cartoon le film.
Ouais, alors il est fort cartoon, on trouve déjà dans Le Retour du Masque, le deuxième livret là du premier tome qui est sorti, on retrouve déjà les grandes grimaces hein, du masque, donc avant le film on a déjà des traces de ça. Évidemment c'est beaucoup plus présent dans Le Masque contre-attaque, on retrouve au moment où quelqu'un parle, tu vois le masque en arrière-plan et il se met à le limiter, à montrer ses dents, à ouvrir sa bouche énormément, à changer de faciès, toujours en étant vert mais avec des cornes, avec un chapeau, etc. Et dans les couleurs, on retrouve aussi un peu l'esprit, mais ça s'arrête là, clairement, parce que les meurtres, la violence, sont toujours d'une imagination débordante. Les types, ils se font exploser à coups de bazooka, à coups de hache, à coups de tout ce que tu veux. Vraiment, l'imagination, elle est ouverte à 100% dès qu'il s'agit de buter quelqu'un, clairement. Au niveau du graphisme, dans le premier tome, le masque, on avait un dessin vraiment un peu, pas balbutiant, mais presque brouillon. On sentait le scan des planches, ça s'est affiné au fur et à mesure. Là, vraiment, sur cet album-là, le dessin s'installe. Là aussi, on pense aussi au film. On retrouve les traits qu'on connaît un peu plus du masque.
D'accord.
Ok.
La couleur, ouais.
La couleur, c'est pareil, c'est vraiment dès qu'il commence à passer sur la couleur en traitement informatique, on a beaucoup plus de peps. Ah ouais, ça pète de partout. Donc Laurent, il vous avait vendu ça comme une BD popcorn. Vraiment, je confirme qu'il avait totalement raison et que vous pouvez foncer, uniquement les adultes, vous pouvez foncer sur ces rééditions de The Mask. The Mask et Le Retour du Masque dans le premier livre. Et le deuxième, qui est sorti il n'y a pas longtemps, c'est Le Masque contre-attaque. Et c'est édité chez Delirium.
Merci, bah écoute, Thibaut.
Super. Merci Thibaut.
Avec plaisir.
Moi, je vais vous parler rapidement de Petit Mickey.
Pourquoi j'ai mis ma webcam là, tu me vois?
Ouais, il y a des coordonnées.
Oh putain, c'est
bon, Mike. Je t'ai suivi là, Thibaut.
Ouais, heureusement que t'as précisé. Sinon, c'était le bide assuré.
Donc, il y a encore des endroits où on peut acheter ce qui ressemble le plus à un livre, ce sont des maisons de la presse, et en baladant, je suis tombé sur...
Tu t'es pas fait mal ?
Non, le hors-série collector Mickey Parade Géant, le numéro 15, sous-titré Les Voyages Fantastiques, et c'est une compilation de différents récits inspirés d'œuvres plus connues adaptées au monde de Disney. Donc ce Voyage Fantastique, on a une adaptation de Moby Dick de Melville, Le Monde Perdu de Conan Doyle, Le Magicien d'Oz, une réécriture de Metropolis et Les Voyages de Gulliver. Alors c'est assez intéressant.
C'est curieux.
Ouais. Sachant que l'an passé ils avaient déjà sorti dans la même série, mais c'était les séries des récits de monstres. Il y avait Frankenstein, Dracula, King Kong et le Fantôme des Canterville de mémoire, enfin entre autres. Et donc, c'est des compilations où on retrouve du dessin Disney classique, parce qu'il y a des récits qui datent des années 80 ou 90. Ce qui est plus intéressant, à mon sens, alors dans ce tome-là, c'est les versions de Moby Dick et de Metropolis qui sont scénarisées par Artibani et dessiné par Motura, donc deux Italiens. On a un trait moderne, pas très loin de ce que peut faire Camboni sur les voyages fantastiques, en plus industriel malgré tout.
Camboni qui a fait un peu de Mickey aussi, hein, non?
Ouais,
Il me semble.
oui.
mais c'est alors enfin on voit que les gars ils font leur plan, ils doivent rendre leurs 40 pages par mois et compagnie, donc c'est moins, mais c'est ça fait moins Disney classique. Le truc marrant, c'est que sur le Moby Dick, la coloriste c'est Mirka Andolfo,
Tiens.
qui fait de la BD toute seule maintenant, puisque c'est elle qui a fait Merci, qui est sortie chez Glénat.
Et aussi New York, là, j'ai oublié le nom.
Et puis Contro Natura, je crois que c'était elle aussi.
Contre Natura, c'est elle aussi, et Under York, voilà.
Ouais, voilà. Donc il y a 5-6 ans, elle était coloriste pour Disney.
D'accord.
Et donc il y a un travail d'adaptation à chaque fois, parce que vous doutez bien que le capitaine Ahab va pas être aussi glauque qu'il peut être chez Melville. Donc là, c'est le capitaine Aquab. Ah non, Aquacab, pardon, donc le couac du canard. Et il veut retrouver Moby Dick parce que quand il l'a rencontré plus jeune,
Moby Duck.
non, Moby Dick, là, pour le coup, c'est non, c'est un vrai cachalot. Et en fin de compte, c'est pas une histoire de vengeance ce coup-ci, c'est juste que Moby Dick a avalé son sou fétiche. Et il veut le récupérer parce que sans son sou, Picsou aura jamais sa. Il fera jamais la carrière qu'il a eue après. Donc, si j'en parle, c'est que, à titre d'information, le Moby Dick est sorti chez Glénat à 15 euros en librairie. Et là, vous avez 5 récits pour 5,95 euros.
Très
Donc,
bien.
le format est plus petit, mais de
C'est
toute
pas
façon,
gênant.
non, c'est pas gênant. Et puis, si vous voulez lire de la BD en ce moment, il n'y a pas 50 autres solutions pour peu que
Oh,
vous
quand
soyez
même.
à jour dans vos séries.
Ah oui.
Voilà.
Non,
Donc voilà.
acheter servitude. Non, mais c'est très bien. Bah, tu donnes envie, en tout cas, ouais.
Bah
Bah,
oui, non,
écoute.
puis alors pour le coup, franchement, pour 5 euros, enfin voilà, tu prends pas beaucoup de risques.
D'accord.
Donc ça s'appelle Mickey Parade-Géant hors série collector, Les Voyages Fantastiques, et c'est dans toutes les maisons de la presse, normalement. On
Super.
va faire la deuxième pause musicale. Donc Franck, cette fois-ci, si je me trompe pas, c'est Venus as a Boy de Björk.
Oui,
Eh ben,
on change de génération.
voilà. C'est parti.
Merci.
troisième partie des gardiens de la BD sur radiopfm.com. On va, je dis on, parce que Franck va participer aussi, et Thibaut, parce qu'il a trouvé cet album superbe sans le lire. On va parler du Château des Animaux, tome 2. Scénarisé par Xavier Dorizon et dessiné par Félix Deleb. C'est sorti chez Casterman. L'an passé, on avait parlé du tome 1, où rapidement, c'était une république animalière. Qui tombait sous le joug de son président et qui transformait ça peu à peu en dictature.
C'est un super c'est résumé, mais
c'est extrêmement concis.
Bah, pour pas. Enfin voilà, on va pas.
On est au sein d'une. Bah, il faut peut-être rappeler que c'est une adaptation romancée, enfin une adaptation du bouquin de George Orwell, La ferme des animaux. Donc là, on est dans une ferme. C'est pas réellement un château. Et cette république est limitée géographiquement, quoi.
Oui, à la, enfin, la ferme.
C'est ça.
Parce que même si c'est un château, c'est plus une ferme.
Et le personnage principal est une.
Bah, ça dépend qui tu veux en personnage principal, mais c'est la chatte. C'est Miss
bah, oui. B. Miss B, Miss Bangalore.
Voilà. Alors tout de suite pour parler, la couverture, je la trouve splendide.
Elle est exceptionnelle.
Sublime, mais ça je l'ai vu.
On voit. Et donc on voit Miss Bangalore, chatte à la fourrure blanche, et donc surtout sur ce tome-ci, personnage principal, sur un fond enneigé blanc. Et à travers la neige et le vent, on peut voir deviner qu'elle est entourée d'autres protagonistes.
Ouais, et donc et comme c'est une chatte qui est de couleur blanche, blanc sur blanc, et pourtant la couverture est splendide. C'est lumineux et en même temps tu sens le froid, tu sens l'inquiétude
c'est
dans
ça,
le regard.
On sent les éléments qui s'expriment. C'est
voilà.
Très belle, quoi.
Donc je vais résumer rapidement le tome 2. Les animaux continuent de travailler pour leur bon président, mais travaillent encore plus à cause de l'heure blanche imposée à la fin de chaque journée de travail par le. Je ne sais plus comment il s'appelle le taureau, mais bon, c'est pas grave.
Silvio. Le président Silvio.
et donc pendant cette heure blanche, ils sont censés couper le bois de chauffe, sauf que quand ils le ramènent, ils doivent le payer en plus.
C'est-à-dire qu'ils le ramènent pour la collectivité et après il faut en acheter.
Ouais, voilà. Donc ils n'ont pas droit. Miss B est. Donc, enfin, au début, c'est comme ça. Il y a un espèce de contestation plutôt calme au début qui commence. On continue sur la lancée du premier où ils font plus des blagues la nuit plutôt que de passer réellement à l'action politique au sens traditionnel du terme.
Ouais, ils sont sur la disparition de la peur. Leur objectif, c'est d'essayer de faire disparaître la peur chez les animaux.
Voilà, ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que quand il se rend compte que son pouvoir est, même s'il est gentiment moqué, Silvio décide de tous les affubler d'un collier à grelots qu'ils ne peuvent plus enlever. Comme ça, ils sauront exactement ce qu'il y prépare la nuit.
Ouais. Les exactions nocturnes sont limitées de ce fait-là. Et il faut passer à un plan B pour nos animaux préférés.
Et du coup, le plan B, ça va être l'action revendicative plus frontale, on va dire.
Plus politique aussi, oui.
Ouais, plus politique. Et. Pardon, excusez-moi. Ils vont procéder à une grève de la faim qui va s'éterniser et
C'est pas une grève de la faim, c'est une grève du bois.
Ouais, mais enfin oui.
En comparatif, on pourrait comparer ça à une grève de. Enfin, comme ils refusent d'acheter leur bois, les autres en face, ils sont bien embêtés parce qu'au début, ils continuent à ramasser le bois quand même.
Ouais.
Donc ils se pénalisent eux-mêmes pour montrer les ridicules de la situation au président.
Et donc le président et sa cour, ils commencent à flipper parce qu'ils ne vont plus être en état de travailler pour la ferme.
Bah, comme ils ne se chauffent plus, ouais, ils souffrent. Eux souffrent, ils ne sont plus en état de faire les tâches qui leur sont incombées.
D'accord. Ouais, sauf qu'au départ, ils ne flippent pas, ils disent que ça passera bien un moment et puis tout finira bien. Enfin, pour le président.
Ouais, tout à fait.
J'ai préféré ce tome-ci au premier. Puisqu'on va parler de. On va pas en dire plus après.
Non, c'est déjà pas mal.
La thématique, le refus de la violence comme affrontement, enfin au moins au départ. C'est assez intelligemment traité. Je sais pas ce que t'en penses, Franck. Même si c'est pas. Comment dire ? C'est pas non plus le pacifisme à tout va, parce que tu vois dans le scénario d'Orisson, au fur et à mesure, que de toute façon tu sais que ça finira pas très bien, qu'il y a une certaine.
Mais il y a quand même des morts régulièrement.
Oui, il y a des morts régulièrement, mais je veux dire, le pacifisme n'apparaît à aucun moment comme la solution terminale du conflit qui oppose les animaux et le président.
Bah, elle n'apparaît pas suffisante et pas applicable avec tout le monde. Donc, ouais, elle ne peut pas être une solution.
Parce que ce qu'il y a toujours, c'est comme dans les réalités, tu en as toujours qui ne suivent pas la cause et qui seront les premiers en cas de révolution à être les plus violents. Il y a une volonté tu vois que je pense que les tomes, ça va monter dans la violence au fur et à mesure. Là, on est encore dans essayer de résister à la colère, à la haine, et de pas céder à la vengeance facile.
Alors, il y a ça sur le fond, et j'allais dire sur la forme, non, mais dans la vision globale de la cause politique, mais moi ce que j'ai aimé aussi, c'est peut-être ce que j'ai décrié tout à l'heure avec Servitude, c'est que tu es impliqué au niveau personnel de quelques personnes, de quelques animaux, et tu t'attaches énormément à eux et tu souffres avec eux. C'est ce mix que je trouve très réussi dans ce tome 2, entre les convictions d'une communauté et les mouvements, les actions qu'elles essayent de mettre en place, et les préoccupations de chacun à leur petite échelle. La chèvre avec, enfin le couple de chèvres, évidemment la chatte Miss B avec ses chatons, le lapin, son implication dans l'histoire.
C'est très très fort.
D'ailleurs, le lapin, moi je le trouve en retrait par rapport au premier tome.
Je me suis posé la question sur l'histoire de votre clochette, parce que dans le premier tome, il n'est pas en retrait du tout. On voit bien que son boulot, il prend avec beaucoup de cœur. voilà. Et je me suis dit, mais avec la clochette, ça doit être un calvaire pour tous les voisins.
C'est pas faux. Il ne le traite pas de ça.
Mais en fin de compte, j'ai l'impression que Dorisson a recentré son scénario fort sur la chatte. Donc Miss B, le chien numéro 1, c'est ? Je sais plus son nom. Et le.
Ça va revenir.
Et le rat là.
Le rat, tu le vois presque pas.
Ah. Parce que pourtant.
Pour moi, c'est le rat qui est. C'est le rat qui est en retrait. Pour moi, César, contrairement au tome 1, il est plus présent dans chacune des scènes, mais il est là comme observateur et il sert à décrire les situations. Et c'est quasiment nous, c'est quasiment le lecteur, je trouve, pour ça. Il est moins acteur dans l'histoire, mais il est là tout le temps, pour moi, en observateur.
Ouais, tandis que le rat est. Enfin, tu le vois quoi
de. Ah non, il est bien en retrait, il est en train de se refaire sa santé comme il peut, mais c'est pas sûr que ça marche.
Voilà.
Parce que c'est lui qui prône la résistance au.
Bien sûr, mais Miss B s'est approprié totalement le message.
D'accord, ok.
Ouais. En fait, la différence, c'est que OD dans le tome 1, c'est une action qui est. Autour de deux, trois personnages, c'est eux qui essayent de faire rire les autres, et leur volonté, c'est que tout doucement, ça gagne le cœur des autres animaux pour que le mouvement ne soit pas juste trois personnes isolées, mais devienne un vrai mouvement. Donc, globalement, tu vois des gens de plus en plus de gens s'impliquer dans la démarche.
Alors sans
ce qui fait que le rat est plus aussi nécessaire.
Ouais, alors sans spoiler la fin, j'ai trouvé ça glaçant, mais. Peu surprenant aussi.
Mais.
Ouais.
Je t'ai pas bien entendu. T'as dit glaçant, mais.
C'est glaçant et terriblement logique, malheureusement. Par rapport au comportement des foules.
Oui.
Le rapport au chef providentiel. Enfin, voilà.
C'est très très bien senti. C'est là que tu vois vraiment que, au travers d'une fable animalière, tu peux être totalement dans le réalisme humain.
Bah, ça a été le business de La Fontaine, hein, pendant des
c'est
années.
C'est ça. Bah, et de Orwell sur la ferme des animaux.
Aussi.
Et donc de Dorisson sur le château des animaux.
Sur le château des animaux, faut quand même parler du dessin de Delep qui est. Enfin, c'est quand même magnifique ce qu'il fait.
Moi je trouve. Alors ne vous attendez pas à ce que l'intérieur ressemble à la couverture, mais pour autant en ancrage et en mouvement, en animation des personnages, c'est de toute beauté.
Oui, parce que mais tu pourrais dire la couverture, elle fait très posée et compagnie, et la peur que tu pourrais avoir si l'intérieur était comme sur la couve, c'est que ce soit trop figé en fin de compte.
Ouais, du bilal quoi.
Oui, ou du Alex Ross pour les lecteurs de comics, ce qui est encore pire
Tout à fait.
que Bilal.
Ouais.
Mais là, c'est une vraie bande dessinée. Il arrive à humaniser les persos.
C'est ça.
À les humaniser tout en leur gardant une touche d'animaux, mais et
Et
puis
on
il y a
voit
du
très
mouvement.
très vite, on est très très vite avec eux, hein. C'est impressionnant.
Ouais, et
C'est les yeux,
puis.
le jeu des yeux, des regards, c'est magnifique.
Et puis, enfin, tu vois, la tempête en hiver, tu la ressens, quoi.
Ah oui.
C'est con à dire, hein. C'est juste des flocons de neige et un sol blanc, mais enfin, tu y es.
Bah, juste pour finir sur le dessin, il y a quelques cases où, même sans couleur, sur l'ancrage, comme tu dis, là, la neige qui tombe sur allez, page 23 pour ceux qui auront l'album dans les mains, la neige devant des branches, où il y a une scène aussi, je ne sais plus quelle page c'est, où ils sont devant le feu de cheminée, c'est dans les premières pages, il y a un ancrage de folie en plus.
Ouais.
C'est vraiment super bien fait.
Donc on peut que recommander la lecture du deuxième tome du Château des Animaux.
Qui s'appelle Les Marguerites de l'hiver.
Voilà.
C'est une
Et...
série qui est prévue en 4 tomes,
Oui.
si ça n'a pas bougé.
Ouais, ce sera
Non,
plus.
c'est toujours annoncé comme 4 en tout cas.
Oui. Bah,
Pour le premier cycle. Pour le premier
ouais,
cycle.
je pense que ce sera le premier cycle en 4. Donc c'est sorti chez Casterman. Ça fait pour moi partie des indispensables de fin d'année.
Je te rejoins.
Peut-être parce que j'attends pas grand-chose de tous les autres qui sortent non plus.
Non, mais c'est à lire, c'est sûr.
C'est voilà. Donc vraiment, Thibaut, faut que tu le lises absolument.
Ah, mais c'est évidemment prévu, mais ça fait partie des BD, tu sais tellement que tu vas te régaler un peu d'avance que tu la laisses de côté, tu dis alors celle-là, je la sors vraiment.
Ah oui, mais c'est ça, c'est quand tu as vraiment du temps devant toi pour la lire et en profiter, c'est exactement ça.
Ouais.
À noter que donc ça sort aussi en chaque tome sort en journal en 3 parties et la dernière page de la bande dessinée n'était pas dans la dernière gazette.
Tout à fait.
Voilà. Donc c'est ceux qui ont acheté les journaux, ils iront faire une photocopie en douce
À la dernière page.
de la dernière page. Bon, il n'y a que 3 cases hein, de mémoire.
Oui, je crois aussi. Ouais.
Voilà, donc c'est pas un truc. On va faire la dernière pause musicale. Franck, c'est toujours toi. Ce coup-ci, c'est Pale Yellow de Woodkid.
Woodkid, exactement. Troisième génération après les deux premières.
Ok, on se retrouve tout de suite après ça.
Release the dragon and let the fluid course. Just make the liquor flow. Pale yellow, as my heart races, I wanted you to know. I will rise again, slow.
Hey.
dernière partie des Gardiens de la BD.
Bah, le morceau n'est pas entier.
Mais non, mais il fallait faire du montage. Faut montrer qu'on est pro, monsieur. Bref, Thibaut, tu vas nous parler rapidement de 9603 km. C'est sorti chez Futuropolis. Au dessin, c'est Pommet. C'est au scénario, je ne sais plus.
C'est Marchetti, Stéphane Marchetti, un scénariste et réalisateur de documentaires qui a entre autres eu le prix Albert Londres, hein, c'est pas dégueulasse, et puis il y a un FIPA d'or, Festival International des Programmes Audiovisuels, bref. 9603 km, c'est une histoire qui démarre en 2014 dans le sud-est de l'Afghanistan. On suit Adil qui est un jeune garçon de 10-11 ans à peu près, et après le décès de son père, Adil il est envoyé par son beau-père dans une madrasa, c'est une école coranique. Alors c'est rien d'incroyable hein, si l'enseignement de l'école choisi par son beau-père n'était pas aussi extrémiste qu'elle l'est. Donc très rapidement, Adil comprend que pour garder la vie sauve, bah, il doit obéir. Et c'est comme ça qu'il se retrouve avec une ceinture d'explosifs autour de la taille et un détonateur dans la main gauche.
Wow.
Et la mission qu'il a, c'est de se faire exploser devant le bureau de la police afghane locale. Alors pourquoi le bureau de la police afghane locale ? Parce que c'est une police qui est financée et entraînée par les États-Unis pour lutter contre les talibans. Alors,
c'est gay ta affaire.
C'est parfait alors, pour finir une émission.
C'est parfait pour finir une émission. Mais ça,
c'est très documentaire, c'est comment cet
album intéressant. C'est pas très documentaire, en tout cas pas au début, pas plus que ça. Ça pourrait paraître fictionnel, seulement bah, nous revient toujours à l'esprit que c'est la réalité, hein. En tout cas d'une partie des migrants, parce que ça va être le sujet central quand même de l'album. Et donc on est devant le poste de police, on voit Adil avec sa ceinture d'explosifs et il appuie sur le détonateur, mais rien ne fonctionne. Alors il va s'enfuir chez un oncle parce que son beau-père a été extrêmement clair en lui disant « Si tu échoues à devenir martyr, je trancherai la tête. » Donc après ces menaces, Adil, il n'y a pas beaucoup d'options. Avec Shafi, un de ses cousins, ils embarquent avec un passeur pour le Pakistan, et puis après l'Iran, et puis la Turquie, et puis la Grèce, etc. Et la fin du voyage. En tout cas, la fin qui vise, c'est l'Angleterre. Mais la question va être tout au long du récit, est-ce qu'ils vont réussir à atteindre l'Angleterre ?
Thibaut, on va arriver à la fin de l'émission. Rapidement, qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ?
Alors, bah, ce qui m'a plu, c'est qu'on ressent la rudesse du voyage. C'est les scènes d'affrontement aux frontières, donc avec tous ces migrants qui sont coincés, qui ont tous une bonne raison de fuir leur pays. Et on fait un focus sur un cas très particulier, celui des enfants soldats. Et donc là, c'est la raison qui mène notre héros à fuir son pays, et c'est ça qui est particulièrement touchant. Je mettrai une nuance quand même. Même si c'est touchant par le type de personnage choisi, on a quand même déjà lu des choses beaucoup plus documentées, en tout cas qui allaient beaucoup plus en profondeur, notamment sur le passage au niveau de la jungle de Calais. Parmi les récits sur la migration par rapport aux guerres, c'est un bon album, mais on peut en lire d'autres.
Ok, merci.
Très bien.
9603 km de Pommès et Marchetti chez Futuropolis.
Ok, messieurs, donc Franck, Thibault, je vous remercie d'avoir été là ce soir.
Merci à tous les deux.
On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, à tout à l'heure dans vos rêves.
Ah.